Que chacune. Vous m'entendez, oui? Parle-tu avec un micro? On est content d'être de retour ce matin avec vous. Ce matin, on va terminer la série de miracles qu'on a commencé il y a, je ne sais plus combien de mois, là, plusieurs mois en tout cas. On a vu plusieurs des miracles du Seigneur Jésus. Le dernier, c'était... Comment Jésus a la misère maintenant. Je pense que je vais enlever. Excusez-moi, là, mais. J'ai trop une grosse bible. C'est vrai, je suis parti. Bon, c'est parti. Fait que le titre du message ce matin, c'est Viens et vois. Et comme on a vu tantôt dans le passage que Matthieu a lu, dans Matthieu 5, Jésus a dit, hein, les aveugles y voient, les boiteux marchent, les malades sont guéris. Et c'est ce qu'on a vu à travers des différents miracles du Seigneur Jésus. Et j'espère qu'à travers de ces miracles-là, vous avez vu combien grand est notre Sauveur. Combien suprême est au-dessus de tout et toute autorité, comme il dit avant de partir, lui a été donnée. Et on l'a vu à travers de chacun de ces miracles-là. Jésus dit lui-même dans Luc 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est peut-être vous ce matin, ça. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est ça la bonne nouvelle. Christ est venu nous libérer. Et ce matin, on va voir de quoi on était captifs. J'aimerais qu'on tourne dans Luc 18, s'il vous plaît. Parce que tous les messages, on les a pris à partir de l'Évangile de Luc. Donc, Luc 18, à partir du verset 35. Luc nous dit ceci. « Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Et on lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » Ceux qui marchaient le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse? » Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vie et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Ce matin, on va voir ensemble la guérison miraculeuse d'un aveugle. Et j'aimerais regarder le texte en quatre sections, je pourrais dire. Premièrement, j'aimerais parler de l'aveuglement elle-même. Deuxièmement, le cri du cœur de notre aveugle. Troisièmement, la question de Christ. Christ a posé une question à cet aveugle-là. On va regarder cette question-là ensemble. Et quatrièmement, le grand bouleversement. Il y a quatre choses que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin. Mais avant de regarder le miracle lui-même, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Parce que je vous ai mentionné plusieurs fois que le contexte est important. Hein? Jésus ne fait pas un miracle juste par hasard. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y a eu la guérison des 10 lépreux, j'avais mentionné une chose que Luc redit souvent. Je ne sais pas si quelqu'un s'en rappelle. Jésus se rendant à Jérusalem. Et Luc a suivi ça tout le long dans son évangile. Il revient toujours là-dessus. Jésus a pris la ferme décision dans Luc 9, 51, il s'en va à Jérusalem pour mourir. Et il va le dire souvent, ça. Et regardez ce que là Luc nous dit au verset 35. Un autre détail important sur le lieu. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Luc ne dit pas ce détail-là par hasard. Il y a une raison. Parce que voyez-vous ici, Jéricho, c'est la dernière ville où Jésus va s'arrêter, avant de marcher 30 km et monter 3000 pieds d'altitude pour arriver à Jérusalem. Et il va mourir. C'est la dernière ville que Jésus s'arrête avant la croix. Et ça, c'est important. C'est important de comprendre ça. Parce que regardez juste avant, regardez ce que Jésus a dit, juste dans les versets avant. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on s'en moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et regardez juste verset 35, « Comme Jésus approchait de Jéricho. » Ce n'est pas par hasard. Le détail est là pour nous dire quelque chose. Jésus va s'arrêter une dernière fois avant la croix. Puis il va s'arrêter pour répondre au cri d'un homme qui souffre. Jésus aurait pu se dire, « Hey, je suis au pire de ma vie, là. Laissez-moi tranquille. Je m'en vais mourir. » Il rentre dans Jéricho. Un aveugle crie. On va voir qu'est-ce que Jésus va faire. Est-ce que Jésus va dire, « Ah non, c'est assez, là. Là, c'est mon temps, moi, là. Je m'en vais mourir, les gars, là. » Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va répondre. Pourquoi? Psaume 34, 6 nous dit ceci. « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Psaume 17. « Tu entends le vœu de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur et tu prêtes l'oreille. » Donc, c'est dans le contexte au pire de la vie de Jésus, juste avant la croix, que cette homme va crier à Jésus. Donc, premièrement, l'aveuglement. Parce qu'on lui dit que c'est un aveugle. Il est assis sur le bord du chemin à Jéricho. Et c'est une bonne place pour s'asseoir. Parce qu'il faut comprendre que quand les gens allaient pour aller à la fin de semaine de Pâques, Jéricho, c'était un emplacement bien populaire où des milliers de personnes passaient. Donc, si tu t'assisais là pour demander l'aumône, il y avait du monde à la messe. Fait qu'il y avait des bonnes chances peut-être pour en recevoir en masse d'argent. Et pourquoi les gens passaient par Jéricho et qui passaient en gang? Parce qu'on disait dans l'histoire que le chemin entre Jéricho et Jérusalem, c'était un chemin très dangereux. Et c'est pour ça qu'on voyageait en foule. Parce que si on voyageait en foule, on avait moins de danger de se faire attaquer. Et en plus, pourquoi il y a une foule avec Jésus? Probablement que les gens pensent que Jésus va venir les libérer des Romains. Et c'est pour ça que juste après, il y a l'histoire où Jésus rentre dans son entrée triomphale à Jérusalem. La foule pense que Jésus s'en va les libérer des Romains. Et dans ce contexte-là, cet homme-là sur le bord du chemin crie à Jésus. Un aveugle. Qu'est-ce qui est pire qu'être aveugle? Pensez-y, là. Jamais vu le visage de tes enfants, de tes petits-enfants. J'avais eu un lever de soleil, une fleur, la mer. Hein, c'est-tu beau, la mer? Mais imaginez-vous, tu étais aveugle. Qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Pas avoir la vue. Mon neveu est sourd et muet. Et je sais que ce n'est pas facile. Mais imaginez être aveugle. Voyez, les yeux que Dieu nous a donnés, là, c'est vraiment un cadeau extraordinaire. C'est vraiment un cadeau extraordinaire. Mais il y a quelque chose de pire que d'être aveugle. C'est l'aveuglement spirituel. Et ça, chacun de nous, on a été ou on est aveugle ce matin. Chacun de nous. Et c'est seulement la nouvelle naissance qui peut nous donner les yeux pour voir. Oui, l'homme qui ne connaît pas Dieu est aveugle. Laissez-moi donner mes deux exemples. Proverbe 4, 19. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui va les faire tomber. Ézéchiel 12, 2. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, et des oreilles pour entendre et qui n'entendent point. Dieu dit à Ézéchiel, les gens qui sont autour de toi sont aveugles puis sont sourds. Et ça, c'est la réalité de chaque homme et chaque femme qui n'est pas en Christ. L'aveuglement spirituel. Et savez-vous ce qui rend l'homme aveugle? Trois choses. Nous-mêmes, Satan, vous allez peut-être être surpris du troisième, Dieu lui-même. Laissez-moi vous le montrer par la Bible. Le premier verset, c'est dans Éphésiens 4 qui dit ceci. L'homme, notre propre corps nous rend aveugles devant Dieu. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? À cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. La première raison pourquoi on est aveugle, c'est à cause qu'on a un cœur dur. On ne veut pas de Dieu, on ne cherche pas Dieu. Deuxième, Satan. 2 Corinthiens 4. Si votre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est qui le Dieu de ce siècle? C'est Satan. Satan a aveuglé nos yeux pour ne pas qu'on voie Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Tellement aveugle qu'on ne peut même pas voir la beauté de la croix. Ça, c'est Satan. Mais il y a pire que ça. Tournez avec moi dans Jean 12. Et ici, c'est Jésus qui parle. Regardez ce que Jésus va dire dans Jean 12, 36. Il dit, « Pendant que vous avez la lumière, croyez dans la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait fait. C'est quoi qu'on regarde depuis les derniers mois? Tous les miracles. Il dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe le prophète avait annoncée. Qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ainsi, ils ne pouvaient pas croire parce qu'Ésaïe a dit ceci. Pourquoi ils ne pouvaient pas croire? Regardez ce qu'il dit. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. De qui Ésaïe parle? De Dieu. Leur cœur est tellement dur que Dieu l'a encore plus endurci. Vous ne me croyez pas? Pensez à Pharaon. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Pharaon ne pouvait pas et Dieu l'a endurci encore plus. Imaginez-vous, on est aveugle à cause de nous-mêmes, à cause de Satan et Dieu lui-même. Est-ce que c'est possible qu'on recouvre la vue par nous-mêmes? Impossible. Impossible. Et c'est pour ça que comme Bartimée, on a besoin d'un miracle, si on veut voir. Et si tu vois ce matin, c'est juste parce que Dieu t'a fait un miracle dans ta vie. Parce que sinon, tu serais exactement comme Bartimée un matin. Seul l'évangile de Christ peut donner la vue. Et c'est pour ça que c'est si important de parler de Christ, comme Matthieu nous disait tantôt. Il y a des aveugles autour de nous autres, plein. Et Dieu nous a donné le mandat d'aller leur parler de Christ. Et savez-vous quoi? Si l'Esprit de Dieu n'agit pas, ils vont rester aveugles. Notre part, c'est de parler. La part de Dieu, c'est d'ouvrir les yeux. Parler. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit quand il a dû rendre témoignage devant le roi Agrippa. Il a dit ceci. Dieu lui a dit, « Je t'ai choisi du milieu du peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Dieu dit à Paul, « Je te donne un ministère, Paul. Va ouvrir les yeux aveugles. » Et on a ce même ministère-là. Et c'est pour ça que c'est important de parler de l'Évangile. Même si ce n'est pas facile. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. On vit dans un monde indifférent. Mais il faut quand même le faire. Parce que Dieu est plus grand. Donc, l'aveuglement. On était tous des aveugles ce matin. Ou peut-être que tu es aveugle un matin. Mais il y a une bonne nouvelle. Le cri du cœur de notre aveugle. Regardez du verset 36 à 39. En entendant la foule passer, il dit ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant lui le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Le cri de l'aveugle. Donc, les gens se rendent vers Jérusalem. Et là, lui, la première chose que j'aimerais nous faire remarquer, c'est la profondeur de son cri. Il crie fort. Et le verset ici, le mot « crier » en grec, là, ça veut dire ceci. Un cri de détresse qui est intense et qui demande une réponse. Le gars, il est désespéré. Complètement désespéré. Regardez la réaction de la foule au verset 39. Hein? En québécois, on dirait « Femme ta boîte, tu nous déranges. » Jésus passe, puis nous autres, on veut le voir, puis c'est juste ça qui nous intéresse. Mais lui, il ne se laisse pas décourager. Parce que dans le fond, les gens, ce qu'ils lui disaient, c'est « T'es rien qu'un nobody. » T'es rien qu'un pauvre aveugle. Jésus, il n'est pas intéressé à toi. Et n'oubliez pas le contexte. Où Jésus s'en va? À la croix. À la croix. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le texte nous dit qu'il va crier encore plus fort. Et le mot grec ici veut dire ceci. Quelqu'un qui a perdu la tête, un mot inaudible, le cri perçant d'un corbeau. Et on les entend le matin dernièrement, les corbeaux, hein? C'est-tu fatiguant à 5 heures le matin quand ils viennent vous réveiller? Mais c'est ça que le mot grec veut dire, le cri perçant d'un corbeau. Le gars, là, il crie comme un fou. Il veut que Jésus l'entende. Il persévère dans son cri. Et quand j'ai pensé à ça, ça m'a fait penser un petit peu à Jacob. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'ange descend, puis là, Jacob se bat avec. Puis là, il est pendu après l'ange, puis il dit, « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne vas pas me bénir. » Vous vous rappelez? Il faut que tu sois convaincu, là, tu bats qu'un ange. Ou la vieille veuve qui va voir le juge, puis qu'elle casse la tête à tous les jours. Puis une journée, j'ai dit, « Là, c'est assez, là. Il est plein mon casse, là, en québécois, là. » M'a l'apprendre ta cause. Je n'ai pas peur de Dieu, mais tu me tombes sur les nerfs. Mais c'est un peu ce qu'il fait. Il persévère. Jésus, s'il vous plaît, aie pitié de moi. Est-ce que vous arrivez de prier comme ça? Avec désespoir. On a le droit de faire ça. Exactement comme Bartimée a fait. Bartimée a crié au Seigneur de toutes ses forces. Parce qu'il était désespéré. Peut-être que Bartimée s'est rappelé la promesse du psaume 12 qui dit ceci. « Parce que les malheureux sont opprimés, que les pauvres gémissent, maintenant l'Éternel dit, « Je m'élève et j'apporte le salut contre qui l'on souffle. » Ou le psaume 22. « Qui n'a ni mépris ni dédain pour la peine du misérable, et il ne lui cache point sa face. » Mais il écoute quand on crie à lui. La foule a juste 20 vieux fous. un aveugle. Jésus veut un homme dans le désespoir. Malgré ce qui se passait. Parce qu'on a un Dieu de compassion. Le cri d'un malheureux. Mais pas juste sa persévérance, mais aussi la révérence de son cri. Regardez comment il appelle Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Dans tout l'évangile de Luc, c'est le seul homme qui appelle Jésus fils de David. Et ça, c'est pas anodin, je pourrais dire, parce qu'en disant fils de David, il croit que Jésus est le Messie. Parce que Dieu avait fait une promesse dans 2 Samuel à Jésus, à David, qu'un jour, un de ses descendants, un de ses fils, s'assierait sur son trône à jamais. Et en disant fils de David, il reconnaît Jésus comme étant le Messie. Et il le dit deux fois, fils de David. Voyez-vous, il était entouré de voyants naturels, mais ils n'ont jamais vu le fils de David. Lui était aveugle, puis il l'a vu. Pourquoi? C'était tout des aveugles spirituels. Tu ne peux pas voir Jésus si Dieu ne t'ouvre pas les yeux. Pas le vrai Jésus. Un aveugle qui était le seul à voir, qui était Jésus vraiment? Le Fils de Dieu. Et c'est la même chose pour nous autres. Il faut être prêt à reconnaître qui est Jésus. Le vrai Jésus, le Messie, le Sauveur, Dieu fait homme. C'est la seule manière d'être guéri de la cécité. Jean 20-31 nous dit ceci. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Si tu crois que Jésus, c'est un bon gars, c'est un faiseur de miracles, bien, tu es rentré aveugle, puis tu vas ressortir aveugle. Tu ne seras pas guéri si tu as besoin d'être guéri. C'est la seule manière d'avoir la vue. Reconnaître qui est Jésus, comme Bartimée, fils de David, sauveur, aie pitié de moi. Et si c'est ton état ce matin, j'espère que tu vas crier au Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Viens à mon secours. Il y a un détail qui est important qu'on ne voit pas dans le texte, là, mais que Marc nous mentionne. Quand Jésus l'appelle, ça nous dit ceci dans Marc 10. Quand Jésus l'appelle, il laissa son manteau et s'est mis à courir vers Jésus. Ça peut être un détail pas bien, bien important. Mais il faut comprendre que pour un pauvre, un mendiant, son manteau, c'est tout ce qu'il avait. C'était sa maison. C'était ce qu'il utilisait pour se couvrir le soir. Son manteau, c'était tout pour lui. Et lui, quand Jésus l'appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse son manteau puis il part à courir. Il a tout laissé en arrière. Exactement le contraire du jeune homme riche juste avant dans 18-22, quand Jésus dit « Laisse tout ce que tu as, vends-les toutes, puis viens sur moi. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné chez eux parce qu'il avait de grands biens. Lui, il n'a rien, il n'a rien qu'un manteau. Il est prêt à le laisser en arrière pour courir vers Jésus. On dit toujours que le salut est gratuit, êtes-vous d'accord? Et c'est vrai. Mais suivre Jésus, ce n'est pas gratuit, par exemple. Il y a un coût pour suivre le Seigneur Jésus. Il a tout abandonné, ce qu'il avait, qui n'était pas grand-chose, pour aller voir Jésus. Parce qu'il savait que le seul qui pouvait faire quelque chose pour lui, c'était Jésus. Et il était prêt à laisser la seule chose qu'il avait, tout abandonner. Et quand on regarde la vie des disciples, c'est exactement la même chose. Pierre, Jean, Jacques, ils ont laissé le filet pour suivre Jésus. Matthieu a laissé sa table d'impôt. Jésus a dit, viens et suis-moi. Il n'est pas parti avec sa table d'impôt dans ses poches. Il a tout laissé pour suivre Jésus. Juste avant, dans Luc 14, 33, Jésus a dit ceci. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. C'est exactement ce que Bartimée a fait. Il a laissé son manteau pour suivre Jésus quand Jésus l'a appelé. Voyez-vous, il y a des gens qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu avec le pack-sac sur le dos. Toute le bébel. Mais Jésus dit la porte est large qui mène à la perdition, mais étroite. Quand tu passes par la porte étroite, là, tu rentres tout nu. Rien sur le dos. Humilié devant Dieu. Tu ne rentres pas avec ton pack-sac puis toutes tes bébelles. Tu fais comme notre ami Bartimée. Tu laisses tout en arrière. Vous ne me croyez pas? On va tourner dans Luc 14, au verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Et Jésus est populaire, hein? Il se retourna et leur dit, « Mes amis, je vais vous donner des cadeaux! » Regardez ce que Jésus leur dit. Ce n'est pas le même genre d'évangélisation qu'on fait. On veut souvent gagner les gens par... Regardez ce que Jésus leur dit. Si quelqu'un veut venir après moi sans préférer son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Pas le genre d'évangélisation qu'on fait aujourd'hui, hein? Vous d'accord? Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, exactement comme Bartimée, il ne peut pas être mon disciple. Haïr sa vie, prendre sa croix, renoncer à tout. Ça veut dire quoi, ça? Prendre sa croix. Mais quand on prenait notre croix dans le contexte historique, ça voulait dire quoi? On allait mourir. Quand tu ramassais ta croix, c'était pour une raison. On t'emmenait pour le pire châtiment et tu mourrais. Et Jésus dit, prends ta croix et viens et suis-moi. Mourir à toi-même. C'est tough. Quand j'ai étudié ce passage-là, ça m'a fait penser à une histoire que j'avais lue il y a bien des années passées. C'est un petit gars. Il met sa main dans un pot. Puis là, il essaie de sortir la main, puis il n'est pas capable. Puis là, il va voir son père en pleurant, puis il dit, « Papa, papa, ma main est prise dans mon pot, je ne suis pas capable de l'enlever. » Et là, son père s'aperçoit qu'il a la main fermée. Fait que son père dit, « Ben, Jacob, c'est simple. Fais juste ouvrir ta main, puis ta main va passer par le trou du pot. » Ou dis-moi, mais je ne veux pas perdre mon $1. Voyez-vous, Jacob n'était pas prêt à laisser son $1 pour sortir sa main. Est-ce qu'on n'est pas comme ça des fois? Bartimée était prêt, lui, à ouvrir sa main et laisser tout en arrière pour suivre Jésus. C'est ce qu'il a fait. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Bartimée, ce n'est pas le premier. Abraham, il a laissé sa patrie. Moïse a laissé toutes les richesses de l'Égypte pour suivre Jésus. Pierre, comme on l'a dit tantôt, ses filets. Matthieu, sa table d'impôts. Paul, sa vie de pharisien. Chacun a fait exactement le contraire du jeune homme riche. Le jeune homme riche est retourné chez eux, malheureux, et bien plus pauvre que Bartimée. Oui, Christ ne veut pas ton argent. C'est ton cœur qu'il veut. Ta vie. C'est ça qu'il veut de nous autres, le Seigneur. Pas notre argent. Dieu est tout à moi. Ça ne veut pas dire « mettez pas de l'argent dans l'offrande », c'est pas ce que j'ai dit, là. Dieu veut qu'on participe à son œuvre, mais Dieu n'a pas besoin de notre argent. Ce que Dieu veut, c'est nos cœurs, exactement comme Bartimée. Il jeta son manteau pour courir vers Jésus. Es-tu prêt à faire ça? C'est ce qu'il a fait. Hein? Parce que lui était convaincu qu'en allant vers Jésus, il était recevoir bien plus que ce qu'il avait laissé en arrière. Et là, une drôle de question de la part de Jésus. Regardez le verset 40 et 41. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amena. Et quand il lui fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse? » Allô? Je t'aveugle? » Voyez-vous, dans le temps, les aveugles, ce qu'ils voulaient, c'était de l'argent. Pourquoi Jésus lui a posé la question, pensez-vous? Jésus voulait entendre de sa bouche qu'il avait besoin de Jésus. Jésus le savait. Rappelez-vous, quand on a vu le premier miracle, avec l'homme qui n'était pas capable de marcher, ses amis l'ont emmené. Et là, les pharisiens se sont mis à dire, « Hey, tu n'as pas le droit de guérir, toi, dans leur tête. » Jésus leur a dit, « Pourquoi vous dites ça? » Jésus connaissait le cœur de Bartimée, mais Jésus voulait l'entendre de sa bouche. Jésus le savait déjà. Et c'est la même chose si tu ne connais pas Christ ce matin. Dieu veut t'entendre de ta bouche dire, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et si tu connais Christ, on a besoin de demander pardon, Seigneur. Et c'est correct de le dire dans notre bouche, « Seigneur, j'y ai péché contre toi, pardonne-moi. » Pas parce que Christ ne le sait pas, parce qu'il veut qu'on le dise. Jésus n'a pas besoin de lui demander la question. Mais il a demandé parce qu'il voulait que Bartimée le dise ouvertement. Guéris-moi, Jésus. Donne-moi la vue. C'est ça que je veux. Et au verset 42-43, le grand bouleversement. Ici, c'est une belle image du salut encore. On a vu plusieurs des images du salut. Celui qui avait la lèpre, Jésus l'a purifié. Comme on est des lépreux. C'est un exemple. Et là, regardez ce que le verset nous dit. À l'instant, il recouvra la vue. Il n'est pas devenu voyant. Belle image du salut, hein? On ne voit rien, on ne comprend rien de Dieu. Tu lis ta Bible, tu ne comprends rien. Dieu trouve les yeux, tu comprends tout. Ça vous a-tu déjà arrivé, ça? Moi, j'ai lu ma Bible pendant 3 ans avec le Seigneur me sauve. Je ne comprenais rien de la Bible. Le Seigneur me sauve. C'est quoi ce verset-là? Je les comprends. En un instant, il recouvra la vue. Le miracle d'avoir la vue. Et je vous dis, avoir la vue spirituelle, c'est bien plus important qu'avoir la vue. Autant comme quoi nos yeux sont importants, avoir la vue spirituelle, c'est encore bien plus important. En un instant. Et ça produit quoi ce grand bouleversement-là dans la vie de Bartimée, quand Jésus lui a ouvert les yeux? Deux choses. À l'instant, il recouvrait la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Quand Jésus rentre dans nos vies, ça devrait faire deux choses. On suit Jésus et on rend gloire à Jésus. Je ne veux pas choquer personne, je ne veux pas attrister personne. Mais moi, personnellement, je ne crois pas que quelqu'un fait une petite prière, qu'on ne le revoit plus jamais à l'Église, et on dit, « Ah, il est sauvé, c'est juste parce qu'il ne vient plus à l'Église. » Bien, moi, ce n'est pas ça que la Bible a dit. Mais la Bible a dit, « Quoi? Il a suivi Jésus. Il a suivi Jésus. » Je ne dis pas que de ne pas fréquenter une église, ça nous sauve. Je ne dis pas comme l'Église catholique nous dit, « Hors de l'Église, point de salut! » Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, par exemple, c'est que quand Jésus te sauve, tu veux être avec le peuple de Dieu. Tu marches avec Jésus, comme Bartimée a fait. Il suit et adore Jésus avec le peuple de Dieu. Et c'est exactement ce que l'auteur aux Hébreux nous dit dans Hébreux 10. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Comment tu fais pour faire ça quand tu ne viens pas à l'Église? Quand tu n'es pas avec le peuple de Dieu? Comment on peut faire pour veiller les uns sur les autres quand on n'est pas là? Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. C'est ça le grand bouleversement. Marcher avec Dieu et rendre gloire à Dieu. Bartimée, là, ça ne nous dit pas. À l'instant, il recouvra la vue et il retourna faire l'aumône sur le bord de la rue à Jéricho. C'est ça que ça dit? Non. Il n'est pas retenu, il n'est pas retourné à son ancienne vie. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu un homme parfait et qu'il ne pêche plus. Mais il n'est pas retourné où il était avant. Il a suivi Jésus. Il a rendu gloire à Dieu. Et on devrait faire la même chose. Comme on a vu dans cette série, beaucoup des miracles que Jésus a faits nous démontrent notre état spirituel et combien on a besoin de Jésus. Comme j'ai dit tantôt, la lèpre, le symbole de notre corruption. Le seul qui peut nous rendre pur, c'est Jésus. La paralysie, comme notre paralytique, on n'est pas capable d'aller de nous-mêmes. Il faut que Jésus nous amène à lui. La mort, le salaire du péché. On est mort spirituel. Le seul qui peut nous réveiller, comme le jeune homme à Nain, c'est Christ. La possession démoniaque nous démontre la destruction et le résultat de notre captivité du malin. Je l'ai dit, je le répète, on est tous nés dans la mauvaise famille. On est tous nés dans la famille de Satan. Et on a besoin d'être adoptés dans la famille de Dieu. Et ça, c'est encore une grâce. Et la cécité, comme on a vu ce matin, le péché nous aveugle et nous sépare de Dieu. On est incapable de voir Dieu, d'avoir de relations avec Dieu jusqu'à ce que Dieu nous donne la vision spirituelle. Comme Bartimée. Et par ça, on peut passer des ténèbres à la lumière, de l'erreur à la vérité, de l'esclavage à la liberté, du péché à la droiture, de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que Christ dit, « J'ai autorité au-dessus de toutes choses. » Je peux marcher sur l'eau. Je peux prendre 5 pains puis 2 poissons puis nourrir 20 000 personnes. Je peux vous libérer parce que j'ai autorité au-dessus de toute chose. Et c'est ça que j'espère que vous avez vu à travers cette série-là. La suprématie de Christ est au-dessus de tout. Et j'espère que tu peux dire ce matin, en plus, c'est mon Dieu. J'aimerais juste terminer avec les paroles de Jean, dans Apocalypse 19, qui dit ceci. Il avait sur son vêtement, sur sa cuisse, un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et il combat avec justice. Ses yeux étant comme des flammes de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. L'armée qui sont dans le ciel le suivait sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë qui frappait les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il les foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ma question c'est ce matin, c'est est-ce que c'est le Dieu que tu sers et que tu connais? Sinon, tu ne sers pas le Dieu de la Bible. Tu sers un Dieu que tu t'es inventé toi-même. C'est ça le Dieu de la Bible. Dieu Tout-Puissant qui règne, qui est au-dessus de tout, qui nous aime, qui est venu mourir pour nous autres, nous racheter, nous donner les yeux, déboucher nos oreilles. Comme un vieux pasteur que je connaissais qui disait tout le temps, il n'y a pas d'amen à ça. Il n'y a pas d'amen à ça?
Amen.
J'espère, amen! S'il n'y a pas d'amen, boy! Amen! Combien notre Dieu est gracieux! On a un grand Dieu. Et j'espère qu'à travers de cette série de miracles-là, vous avez pu voir combien on a un grand Dieu. Et par la grâce de Dieu, quand je vais revenir, j'aimerais commencer une nouvelle série sur la croix. La croix de Christ. Pourquoi Jésus devait mourir? De quoi la croix nous sauve? Pourquoi dans le jardin de Gethsémané, son père n'a pas pu dire à Jésus, « C'est correct, prends la poêle, la croix. » Pourquoi il a été obligé de dire, « Faut que tu apprennes, mon gars. » La croix dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on voit la croix dans l'Ancien Testament? Qui a tué Jésus? Toutes des questions que par la grâce de Dieu, dans le prochain message, on pourra regarder ensemble. La croix. Retourner à la base. La croix de Christ. Par la grâce de Dieu, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble dans les prochains mois, quand je vais revenir, Dieu voulant. Je vais juste terminer par la prière. Oh, Père, combien on veut te dire merci pour le Seigneur Jésus. Mais Seigneur, quand je me regarde, regarde mon état, Seigneur, j'étais aveugle, sourd. Plus que ça, j'étais mort. Je rebelle, je te cherchais même pas. J'étais taché par le péché comme le lépreux. Oh, Seigneur, merci. Merci pour Luc, Seigneur, qu'à travers l'Esprit, a pris le temps d'écrire chacun de ses miracles pour nous montrer combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es le Fils de Dieu venu en chair. Tu as dit toi-même à Jean, quand il est découragé, comme on a lu tantôt, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Va le dire à Jean. C'est ça la bonne nouvelle. Ah, Seigneur, merci. Merci pour cette grâce infinie de notre Dieu qui un jour nous a sauvés. On était perdus, mais tu nous as retrouvés. À toi seule la gloire, Seigneur Jésus. Amen.